Réparation, chapitre 8. Le lendemain, Jacques roulait du côté de Paris. Comme si la hâte fébrile d'Isabelle l'avait saisi à son tour, il n'était rentré chez lui que pour embrasser en courant sa mère, et il avait pris le premier rapide nocturne. Il ne songeait pas à dormir. Trop de pensées l'obsédaient. Au bruit des roues qui lui remplissaient les oreilles, il repassait mot à mot le récit d'Isabelle, et il arrivait toujours à la même conclusion. Ce qu'il fallait, pour rendre le calme à cet esprit tourmenté, c'était une certitude. Devant le fait accompli, quel qu'il fût, Isabelle pourrait, selon les cas, avoir une secousse, mais peu à peu, elle se tranquilliserait. Ses sentiments violents, exaspérés par le doute, redeviendraient ceux d'un enfant, c'est-à-dire fait de cette matière légère que les passions d'un autre âge chassent comme une poussière de fleurs mortes. Jamais, aussi bien qu'en écoutant l'ardent réquisitoire de la jeune fille, il n'avait senti à quel point elle était désormais indispensable à sa vie. Dès qu'une première lueur d'aube pénétra dans le coupé où il se trouvait seul, il abaissa la glace et regarda fuir le paysage sous le crépuscule froid du matin. Des champs, des prairies, des hameaux à peine entrevus glissaient comme de fuyants tableaux tristes et incolores. Mais quand enfin le soleil parut, l'or des blés coupés et le vert intense des prés sortirent de l'ombre. Le monde terne s'égaya de couleurs fraîches et vives, et les inquiétudes qui avaient peuplé l'insomnie de Jacques se dissipèrent en partie à la perspective d'un nouveau jour radieux. Jusqu'à ce que le train sifflant entrât en gare, un engourdissement fugitif l'enveloppa de bien-être. Mais à peine eut-il posé le pied sur le quai, encombré et bruyant, que le malaise de la nuit le ressaisit à l'improviste. Et tout de suite, le vacarme des rues auxquelles il n'était plus habitué, le tapage assourdissant des voitures, ce va-et-vient de fourmilières où il n'avait plus ni place, ni besogne, ni intérêt, l'excédèrent. Au lieu de le distraire de ses pensées, la mise en scène excitante et capiteuse de la grande ville semblait en accentuer l'amertume. Le gai soleil, versant sur la vivante cité des torrents de lumière, où la poussière flottait comme une vapeur d'or, l'animation des grandes artères, malgré l'heure encore matinale, le luxe des étalages avec leur profusion fastueuse, tout cela n'était à ses yeux qu'une fantasmagorie irritante qui excitait davantage son désir de s'en retourner là-bas, dans le coin de terre silencieux où Isabelle l'attendait. Dès qu'il put le faire sans inconvénience, il se rendit chez l'oncle de Lucien. À tort ou à raison, avant de recommencer les démarches faites à l'étranger par Philippe, il avait cru sage de consulter le seul parent connu du jeune homme. Et tandis qu'il roulait du côté de son bureau d'affaires, il se demandait, pour la première fois, quelle sorte d'homme pouvait être ce personnage muet, à qui la dernière communication de Philippe, si grave pourtant, n'avait pas même arraché un mot. Une demi-heure plus tard, il gravissait des escaliers de marbre, revêtus d'un tapis turc moelleux et cossu, et on l'introduisait dans une salle d'attente, où l'impression qu'il avait eue en pénétrant dans cette maison claire et spacieuse se fortifia. C'était plus que l'aisance, c'était la richesse, l'abondance, l'habitude d'une libre dépense qui avait présidé au choix et à l'arrangement de cette installation somptueuse. Puisqu'il jouissait d'une si brillante situation financière, pourquoi l'oncle de Lucien avait-il refusé, autrefois, de s'occuper de son neveu? Il avait allégué ses propres fils à pourvoir d'abord, mais dans des affaires montées sur ce pied, il y a place pour tant de travailleurs différents. Au milieu de ce luxe pesant, dans cette chambre sans air où l'on n'entendait que le roulement assourdi et lointain des véhicules, tout de suite Jacques étouffa. Il alla soulever l'épaisse tenture qui voilait la fenêtre, et, coupé par l'angle des toits, un carré de ciel bleu parut. Tout en bas, comme au fond d'une citerne, une cour sans soleil et sans vie dormait. il pensa aux grands horizons libres, aux vastes étendues dorées des champs, à la pure atmosphère des campagnes qui remplit de vie les poumons, et le luxe des grandes villes avec son envers étroit lui sembla mesquin et peu digne d'envie. À son oreille, à travers la rumeur incessante des rues, il entendait distinctement la voix d'Isabelle, la voix affectueuse, au ton bas, murmurer « Demain, demain déjà ?» C'est alors qu'il l'avait serrée contre son cœur, non comme une fiancée candide et chérie, mais comme la femme passionnément aimée que rien ne pourrait plus lui arracher. Avoir Isabelle tout à lui, loin de ce vacarme étourdissant, dans le pays où elle avait grandi sous ses yeux, en cachant au fond de son cœur d'enfant un chagrin muet et obstiné, là était désormais le but de tous ses efforts, de toutes ses pensées et de tous ses désirs. Il était si absorbé dans sa méditation que, lorsqu'on vint enfin le chercher de la part de M. Roche, il tressaillit comme au réveil trop brusque d'un rêve heureux. À l'entrée de son visiteur, M. Roche, penché sur un registre, acheva tranquillement l'inscription commencée, montrant le sommet luisant d'un crâne dégarni, puis il ferma l'énorme bouquin et releva la tête. Ses yeux pâles et ronds avaient, derrière l'éclat du binocle, un regard fixe qui s'immobilisa aussitôt sur le visage inconnu, et, au geste bref indiquant un fauteuil, au « Monsieur ?» sec jeté en forme de question, Jacques saisit l'impatience de l'homme préoccupé de la valeur du temps. Il dit vivement « Je ne vous dérangerai pas longtemps, monsieur. Je n'ai que quelques mots à vous dire, et les voici. Je suis l'ami de monsieur Duplex, chez qui votre neveu a séjourné autrefois. » « Monsieur Duplex ? Ah oui, 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 parfaitement, parfaitement. Vous avez été instruit dans le temps du départ de ce jeune homme et de son extraordinaire disparition. Depuis 6 ans, malgré d'actives, d'infatigables recherches, il a été impossible de retrouver ses traces et... « Les traces de Lucien ?» se récria M. Roche en montrant brusquement sous l'épaisse moustache rousse une double rangée de dents trop parfaites. « Mais, mon cher monsieur, voilà 6 ans qu'il est ici, Lucien. Où diaboulez-vous donc qu'il soit ?» Jacques demeura quelques secondes silencieux. Il n'avait pas un instant envisagé l'éventualité de trouver Lucien en chair et en os établi chez son oncle. Ce brusque éclaircissement de l'obscurité, planant comme un ciel d'orage sur l'intérieur de Philippe, le prenait par surprise. Cela le jetait dans une confusion d'idées qu'il n'avait pas prévues. Il murmura enfin lentement « Il est ici, en vérité ? Parbleu ! Où diaboulez-vous donc qu'il soit ? Après avoir satisfait sa sotte fantaisie d'aller courir les aventures, il en a eu assez au bout de 8 jours. À la première étape, il a décampé sans dire gare, et il m'est arrivé ici un beau matin, sans un fil ni un sou. C'est le cas de dire que les rats savent où se trouve le grain sans qu'on le leur apprenne, pas vrai ? Mais alors, monsieur, ayez l'obligeance de m'expliquer pourquoi la lettre que M. Duplex vous a adressée à son sujet est restée sans réponse. » Sur la physionomie lourde de M. Roche, une surprise sincère se peignit. « Vous devez faire erreur, monsieur. Dans ma maison, il est fait droit à toutes les demandes, même à celles d'intérêt privé. M. Duplex a dû recevoir en son temps une réponse à sa lettre. » Il s'interrompit une seconde et continua. « À moins que... ma foi, oui, ce serait possible, après tout, à moins que Lucien ait négligé de lui envoyer cette réponse. Rien ne m'étonne de la part de ce garçon. Il n'a pas pour un sou de sens pratique dans la cervelle. Je lui ai moi-même remis la lettre de M. Duplex, en le chargeant d'y répondre sur le champ. C'était bien le moins qu'il se débrouillât tout seul, après s'être volontairement jeté dans des embarras stupides. Car enfin, pourquoi diable ne restait-il pas là où il était ? Il est l'exacte reproduction de son père, ce type-là, et je m'en doutais avant de l'avoir vu. Pas un liard de sens pratique. » Il ôta son binocle, l'essuya longuement sans lever les yeux, le remit et poursuivit comme s'il continuait un monologue intérieur ou répondait aux objections d'un interlocuteur invisible.
« Des études. Où est-ce que ça mène aujourd'hui ?
À crever de faim et à compter sur les autres. Voilà où ça mène. Moi, j'ai dit à Lucien, c'est bon, je te donnerai de l'ouvrage puisque te voilà. Mais quant à te laisser moisir sur tes herbes sèches comme ton père, ma foi, non. Du solide, des chiffres et puis des chiffres. Si cela te va, c'est bon. Sinon, je t'aiderai à retourner là-bas. Et tu t'arrangeras avec Monsieur Duplex comme tu voudras. »
Et il a mieux aimé rester.
Il est resté, voilà.
Il ajouta en martelant le bord d'acajou de son bureau de petits coups d'ongles impatients.
Un garçon sans goût pour rien. Gagner de l'argent, il s'en soucie autant que de ça.
Il fit claquer bruyamment le pouce et l'index et continua. Il ne sait pas même jouir de sa jeunesse pendant qu'elle dure. Quand elle est finie, cours après. Moi, je me défie de ces garçons trop sages. Ça cache quelque chose.
Jacques dit avec effort. Son père lui a légué une passion que la vie ne lui a pas permis de satisfaire. Voilà probablement ce qu'il cache.
Un legs ? Vous me faites rire avec votre legs. Fameux, votre legs, vrai ? C'est chiner toute une vie à respirer du foin sec et en arriver là ? Il faut que vous sachiez, monsieur, que mon frère a eu le même héritage que moi pour commencer la vie. De quoi partir doucement. Jusqu'à son second mariage, cela ne marchait pas trop mal. Il avait une place de professeur. Il s'était même distingué dans sa partie, à ce qu'on me disait. Mais moi, je me défiais. Je disais à ma femme, « Attendons la fin. » Un beau jour, il m'annonce qu'il s'est remarié et qu'il vient en passant nous montrer sa nouvelle acquisition. Une brunette à dents blanches avec deux lèvres rouges et gourmandes. Elle ne me plut pas, cette petite-là. À côté de mon frère, elle avait l'air d'une personne qui vient de conclure une bonne affaire. Ils ne se rapprochaient pas plus l'un de l'autre que si la mère était entre eux. À partir de ce moment-là, tout périclita chez eux. Ce fut d'abord le petit qui fut malade et resta longtemps chétif, puis mon frère commença à décliner. Il dut prendre des congés de plus en plus souvent. Et un bon jour, crac, il passa le détroit sans dire gare. Voilà.
Il enleva son binocle d'un geste vif, le posa sur la table et attacha sur Jacques deux yeux ronds, éteints de myopie. Sa hâte d'en finir avait tout à fait disparu. Il éprouvait à raconter les vicissitudes de son frère une joie, un triomphe évident. Il reprit.
« Ce n'est pas pour rien que je me défiais. Cette petite femme brune a dû tout dévorer avec ses dents blanches et ses deux lèvres gourmandes. Lucien n'a pas eu un sou à la mort de son père. Moi, soupçonnant ce qui se passait, quand j'ai su qu'au bout d'un an à peine elle s'était remariée et qu'elle voulait gentiment me doter de l'enfant, j'ai dit « Pas de ça, tu l'as, garde-le, ce n'est que juste. Plus tard, s'il ne ressemble pas trop à son père, on verra. » Un jour, le garçon me tombe des nuages. Que faire ? Je ne pouvais pas le jeter dans la rue. Jamais ma femme ne me l'aurait permis. Aujourd'hui, elle le dorlote presque plus que ses propres fils. C'est qu'aussi, il est presque toujours à la maison, tandis que les autres, on ne les y voit guère. Le travail fini, ça s'amuse, que diable ! À leur âge, moi, je devais bûcher tout le jour, je n'avais pas le temps. Mais ce n'est pas l'envie qui me manquait, sapristi, non.
À plusieurs reprises, il se frappa le genou du plat de la main et son visage épais s'épanouit d'un rire silencieux. Jacques se leva.
Il y a un point où vous vous trompez absolument, monsieur, dit-il glacé. Le père de Lucien ne l'a pas jeté à la misère, comme vous le croyez. Il a fait un testament en bonne forme, où, au cas d'un second mariage de sa femme, il laissait la totalité de sa fortune à son fils à l'époque de sa majorité. Cette époque est arrivée, et c'est pour en conférer avec vous que, croyant Lucien introuvable, je suis ici.
D'un mouvement brusque, M. Roche replaça son binocle sur son nez, et derrière l'éclat du verre, le regard reprit son immobilité, tandis que les lèvres murmuraient
« Bah, bah, et cet imbécile de Lucien qui m'a affirmé le contraire ?»
À son tour, il se leva. Les deux hommes se dévisagèrent. Il y avait entre eux une telle distance d'âme que Jacques réfléchissait, indécis. Jamais cet homme, resté si vulgaire d'instinct au milieu de son luxe, ne pourrait croire à l'indifférence de Philippe au sujet de l'héritage de Lucien. Il ne comprendrait rien à l'irritation injuste mais réelle de Philippe en face de l'hôte innocent jeté par le sort entre Germaine et lui. Non, jamais il n'accepterait la vérité telle qu'elle était. C'est-à-dire l'oubli de Philippe, l'oubli absolu de cette question d'argent, tandis que sa passion d'un jour se débattait pour ne pas mourir. Il dit enfin. Autrefois, dans une maladie assez grave, j'ai soigné Lucien. Peut-être se souviendra-t-il de moi. Puisqu'il est ici, permettez-moi de le voir. Un sourire ironique écarta les lèvres charnues de M. Roche, et les deux rangées de dents artificielles s'étalèrent un moment, méchantes. Lucien est absent pour quelques jours, mais si ce que vous dites est exact, il est temps de l'avertir, en effet. Il est plus que temps, en effet. Vous ignorez, protesta Jacques froidement, que pour retrouver ce jeune homme, M. Duplex a dépensé des sommes considérables, que sa disparition a empoisonné sa vie et celle de sa famille pendant toutes ces années, tandis qu'il était ici, et qu'un mot de vous aurait suffi à le rassurer. Eh bien, soit, à la bonne heure, n'en parlons plus. Mais aussi, pourquoi diable ce garçon, qui n'avait encore à s'acquitter d'aucun travail régulier, n'a-t-il pas répondu comme je le lui disais ? C'était son affaire, pas la mienne. Les mains dans les poches, il arpenta une ou deux fois la chambre sans rien dire, puis il s'arrêta brusquement. On ne se fait presque pas scrupule de se ficher d'un garçon comme celui-là, je le sais. C'est son père trait pour trait. Quand j'étais petit, ce que je m'amusais à le faire aller, son père, bien qu'il fût mon aîné de plusieurs années. Je lui faisais avaler des histoires, mais des histoires, rien ne l'étonnait. Il ajouta sans reprendre haleine. « C'est bon, n'en parlons plus. Dès que Lucien sera de retour, je vous l'enverrai là-bas. Tout ça, c'est son affaire, pas la mienne. Si son premier mot n'est pas pour ses plantes sèches, je veux bien être pendu. Il n'en a pas encore démordu de cette idée. Elle lui tenait au cœur comme une griffe de fer. Eh bien, c'est bon. Qu'il fasse ce qu'il veut, ça m'est égal. Mais qu'il ne vienne pas une seconde fois se mettre à la crèche ici quand il aura tout mangé. Ah, pour ça, par exemple, non. » Jacques prit brusquement congé. Il se retrouva dans la rue au milieu du bruit et du monde. Un écœurement l'accompagnait. Il marchait droit devant lui, talonné par le dégoût, mais peu à peu le fait précis qui seul l'intéressait reprit le dessus. Il songea que dans peu de jours, les souvenirs puissants d'Isabelle redeviendraient de la vie. Et les dents serrées, il murmura « Elle est à moi !» Il marcha longtemps au hasard, absorbé par ses pensées, et peu à peu la nuit descendait. La circulation sur les boulevards encombrés et tapageurs devenait de plus en plus difficile. Impatienté du frôlement de cette cohue étrangère où son trouble intérieur s'irritait, Jacques passa le premier pont qui se présenta, et tout de suite la paix et l'ombre du quai tranquille le calmèrent. Il avait laissé derrière lui la fièvre de la grande ville indifférente, et il regarda le fleuve noir, déjà étoilé des feux de la nuit, couler sans bruit. L'eau s'en allait, paresseuse et pesante. Étouffant au fond de son cœur quelque chose de caché qui se débattait pour venir au jour, il suivait des yeux les formes noires qui se mouvaient à la surface du fleuve, et les lumières flottantes glissant sur l'eau. Tout à coup, du sein de cette flottille d'embarcations légères, le cri aigu d'une sirène déchira l'air. Jacques sursauta violemment, et au même instant, le contrôle sévère qu'il exerçait sur sa pensée lui échappa. Il murmura à contre-cœur « Ton devoir d'honnête homme. Mais pourquoi ?» Et le visage flétri et soucieux de sa mère tel qu'il était au moment où, prenant hâtivement congé d'elle la veille, il l'avait mise, en deux mots, au courant des confidences d'Isabelle, le vieux visage tendu et attristé se dessina en traits précis devant ses yeux. Sans qu'il sût pourquoi, l'attention muette que sa mère avait prêtée à la communication incomplète des événements lui avait pesé comme du plomb. Quand il s'était tu, elle avait gardé un long silence, plein de choses qui semblaient se dérober. Puis elle avait dit sourdement « Va, fais ton devoir d'honnête homme, quel qu'il soit. Va et reviens bientôt. Oh, comme tu vas me manquer ici, mon enfant !» Il s'était enfui sans répondre, pressentant sous le vague des paroles autre chose qu'une secrète participation à ses propres inquiétudes. Oui, une sorte de prescience ouvrant sur les possibilités de l'avenir une perspective beaucoup plus lointaine. Pas une fois, pendant le trajet de la nuit, le souvenir de sa courte entrevue avec sa mère ne l'avait dominé. Il l'avait relégué au fond de sa mémoire, et il avait réussi à le tenir inactif dans l'obscurité de sa prison. Mais la réminiscence inquiétante, avec son sens cruel et complet, venait de sortir toute vivante des replis de sa conscience, et Jacques l'interrogeait face à face, le cœur rebelle. « Ton devoir d'honnête homme. Pourquoi? Qu'avez-vous voulu dire par là ?» Une seconde fois, le cri de la sirène vibra, et sur la nappe lisse du fleuve, une masse noire évolua lentement avec un bruit de roues et un clapotis d'eau remuée. Toutes les lumières multicolores reflétées au fond de l'eau entremêlèrent leurs rayons, les confondirent, les brouillèrent. Jacques répéta une troisième fois « Ton devoir d'honnête homme !» Et il s'en alla. Quelques heures plus tard, il roulait de nouveau vers sa patrie d'adoption. Chapitre 9. De très loin, un bruit de musique arrivait du fond de la campagne. Des notes gaies et rapides, accompagnées d'un tam-tam continu de grosses caisses. D'obliques rayons filtraient, à travers l'opacité des grands hêtres, des flèches de lumière qui allaient zébrer d'or le sable des allées, et que les frissons de l'air agitant le feuillage faisaient osciller sur le sol. À l'approche de la nuit, les oiseaux s'étaient cachés. Le bruit isolé de l'orchestre s'entendait par moments, net et précis, ou bien confus et tronqué, selon les caprices du vent. C'étaient des fifres et des violons jouant à perdre haleine des danses de village, tapageuses et entraînantes. Jacques et Isabelle se promenaient, lentement, côte à côte, dans le grand parc ombreux, et de temps en temps, Jacques se penchait pour apercevoir le visage obstinément baissé de sa fiancée. Ce jour-là, il ne souffrait presque pas de l'attitude pensive et distraite d'Isabelle. Il lui semblait qu'enfin, enfin, l'heure était venue où les craintes et les doutes qu'il avait si longtemps tourmentés allaient prendre leur vol. Il y avait quelques heures à peine, Philippe ne l'avait pas autorisé à fixer avec Isabelle la date prochaine où il aurait le droit d'arracher la jeune fille à des lieux où trop de tristes réminiscences sollicitaient sans cesse son attention. Tout à l'heure, lorsqu'elle-même choisirait librement ce jour, l'obsédante inquiétude des dernières semaines s'enfuirait pour toujours. À la seule pensée de cette délivrance, une telle ivresse de joie s'emparait du cœur de Jacques que les mots qu'il avait préparés depuis le matin s'étranglaient au fond de son gosier. À la fin, pourtant, voyant Isabelle continuer à marcher silencieuse à côté de lui, il fit effort pour dominer son émotion et murmura « Isabelle, Philippe m'a permis de vous demander quelque chose ce soir, mais je ne sais pas si vous êtes disposée à m'écouter. Puis-je parler ?» En même temps, il entoura de son bras la taille svelte d'Isabelle et essaya d'attirer la jeune fille sur son cœur, mais d'un geste brusque, elle lui échappa. Ils étaient arrivés au bord de l'étang, où autrefois, quand Isabelle était enfant, elle venait voir s'ébattre les canards. Elle avait gardé pour ce coin solitaire son ancienne prédilection. Les grandes herbes et les fleurs sauvages y pullulaient, vivaces et innombrables. Tout près d'eux, l'eau immobile brillait comme une plaque de verre prisonnière dans son cadre de verdure bronzée par l'automne. Et de dessous, les charmilles, un froufrou de choses sèches, un piétinement s'échappait. trois canards blancs sortirent enfin des broussailles et, disgracieux, cahotants, coururent du côté de l'étang. Leur chute précipitée dans l'eau fit un plouf bruyant. Isabelle eut un rire un peu forcé. « C'étaient les canards. J'ai cru qu'il y avait là quelqu'un qui nous regardait. » Jacques ne dit rien. Il cherchait à renouer le fil interrompu de sa demande, mais il n'y arrivait pas. L'exclamation d'Isabelle l'avait dérouté. Il se décida à attendre que le moment d'interroger la jeune fille revînt de lui-même un peu plus tard. Ils reprirent leur promenade et ils atteignirent bientôt l'une des extrémités du vaste parc de Philippe. Le pays plat, l'interminable plaine avec ses franges d'arbres grêles et la pâle verdure de ses saules nains, s'étendait à l'infini. Le soleil avait disparu. Dans le ciel verdâtre, une étoile clignotait en face du jour mourant. Isabelle s'arrêta. À cet endroit, plus ouvert, la musique de la fête, entrecoupée de courtes intermittences, arrivait sans obstacle, plus nette, plus distincte. Par bouffées, selon la direction du vent, les notes se précipitaient en cascades échevelées, ou bien brusquement elles s'éteignaient. Il y avait des trous, des lacunes, des silences. « Comme ces gens s'amusent !» dit enfin Isabelle. « Jamais je n'ai connu ce genre de plaisir, moi. Quelquefois, il me semble que je n'ai pas encore eu de vraie jeunesse. » De l'autre côté de la clôture, sur la route, des groupes de paysans passaient à pied, pimpants et rieurs, ou entassés sur les bancs de chars enrubannés et fleuris. Ils filaient dans la même direction, au trot pesant de leurs lourds chevaux de campagne. Et de très loin, une bande de filles et de garçons, se tenant par la main, arrivait en chantant. La longue chaîne ondoyante se déroulait et se repliait en lacets souples et gracieux, et le son des voix claires devint enfin très distinct. Une jeune fille chantait seule les couplets d'une romance amoureuse, que toute la bande soulignait d'un refrain moqueur. Bientôt Jacques et Isabelle saisirent nettement les paroles. « Je n'irai plus ce soir parmi les moissons mûres cueillir le frais bleuet, ni m'abriter le jour à l'ombre des ramures. Je n'irai plus parmi les moissons mûres, c'est la fille à Thomas. Ha, 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 ha. Aux odorants buissons de la jeune aubépine, j'ai pris un blanc bouquet. Mais si frêle est la fleur et si dure est l'épine, aux odorants buissons de l'aubépine, c'est la fille à Thomas. Ha, 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 ha. Il m'a juré tout bas des amours éternels au seuil du gai printemps. Le printemps s'est caché sous les neiges cruelles. Où sont les amours éternels? C'est la fille à Thomas. Ah, 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 ah. » Très longtemps, le timbre jeune des chanteurs et leurs rires résonnèrent sur la route. Puis le bruit se perdit dans la distance. « Isabelle, » dit Jacques en tirant de sa poche un minuscule écrin de cuir rouge. « Voici un petit souvenir que je vous ai rapporté de Paris. Oublieux que je suis, je n'ai plus pensé à vous l'offrir. » Isabelle murmura « Comme vous êtes bon, Jacques. Où que vous soyez, vous pensez toujours à me faire plaisir. » Elle ouvrit l'écrin avec précaution, regarda un moment briller le diamant fixé à un simple anneau d'or, et elle ajouta « C'est trop beau! Vous me gâtez! Merci, merci !» En même temps, avec un petit clic métallique, elle referma l'étui. « J'espérais, dit Jacques au bout d'un instant, vous voir porter cette bague tout de suite. » La jeune fille rouvrit l'écrin et passa docilement l'anneau à son doigt. Le diamant lança un éclair. De très loin, une bouffée d'air apporta le refrain de la chanson. « C'est la fille à Thomas, ha, 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 ha. » « Comme ces gens s'amusent, » répéta Isabelle. « Savez-vous à quoi je pensais tout à l'heure ?»« Non. » « Et si nous allions jusque là-bas »«
Dans cette cohue de paysans ? Vous n'y pensez pas ?»«
Et pourquoi pas ? Tous ces gens ont l'air si heureux. Pourquoi n'irions-nous pas les voir danser ? Cela m'amuserait. »
Il y eut un court silence,
et de très loin, le refrain arriva encore une fois, écourté. Ah, 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 ah. Un mot amer était monté aux lèvres de Jacques en réponse à l'étrange fantaisie d'Isabelle, mais il le ravala et dit simplement « Depuis que je vous connais, c'est la première fois que je vous entends exprimer un désir de ce genre, Isabelle. » « C'est que, grâce à vous, dit la jeune fille vivement, j'ai aujourd'hui le cœur plus jeune et plus léger. » En même temps, affectueuse, elle glissa son bras sous celui de Jacques, mais elle le retira presque aussitôt, et elle reprit le chemin de la maison d'un pas toujours plus pressé, comme si son désir d'aller voir, de ses yeux, les ébats de cette foule de paysans la talonnait de plus en plus. De temps en temps, par de vastes échancrures ouvertes sur le pays, le groupe des maisons basses aux toits rouges, d'où venait le vacarme de la fête, émergeait au loin comme une floraison vivace épanouie au ras du sol. Sur la lisière des terres moissonnées qui longeaient la route, une rangée de saules bas, à la tête chevelue, accompagnait le cours d'un filet d'eau invisible. Chaque fois qu'elle traversait une de ces vastes clairières où les notes échevelées de la valse éclataient plus prochaines, Isabelle ralentissait un peu son allure, comme si ce tapage lointain la captivait pour tout de bon. Mais dès qu'elle se retrouvait sous l'ombre touffue des hêtres, elle accélérait le pas. Jacques, silencieux, marchait sur ses talons. Il souffrait sourdement, sans savoir pourquoi. N'accompagnerait-il pas Isabelle où qu'elle voulût aller? Alors, ici ou ailleurs, qu'importait? Pourquoi le désir innocent ou la sève de jeunesse si longtemps comprimée dans le cœur d'Isabelle manifestait enfin sa présence? Pourquoi ce désir, un peu enfantin mais si naturel à son âge, le contrariait-il à ce point? Il regardait la jeune fille se hâter le long des allées déjà sombres, et il finit par la rejoindre. Avant de se mêler, pour lui faire plaisir, à la cohue de cette kermesse bruyante, il voulait au moins obtenir d'elle la réponse définitive que Philippe l'avait autorisée à lui demander. Il se mit à son pas, et, après une courte hésitation, il dit, d'un ton qui s'efforçait d'être calme, « Isabelle, Philippe m'a permis de fixer ce soir avec vous le jour où vous serez à moi. Je ne veux pas vous presser. Dites vous-même ce que vous désirez. » Et, saisissant les deux poignets délicats, il arrêta de force la jeune fille en face de lui, cherchant à lire quelque chose de précis sur son visage baissé, tandis qu'un peu haletante de sa course rapide, elle balbutiait « Je ne sais pas, quand papa voudra. » « Non, Isabelle, non. Personne d'autre que vous ne doit décider ce point-là, pas même Philippe. Vous seul choisirez le jour où vous me donnerez ce que vous m'avez volontairement promis. » Elle se dégagea doucement en murmurant « Comme vous voudrez, je vous dois tant. » En même temps, d'un geste automatique, elle ramassa les plis de sa longue jupe blanche, les insérée entre ses doigts et reprit son allure rapide. Au bout de l'avenue, un carré lumineux indiquait l'espace ouvert où s'élevait la maison. Mais dans le parc, l'ombre régnait, dense, compacte. La jeune fille, les yeux fixés sur l'échancrure lumineuse, s'en allait droit devant elle. Et tout à coup, au milieu de l'obscurité du sous-bois, son pied buta contre une pierre. Elle se redressa en riant, d'un rire énervé, et elle dit, essoufflée, « Ce n'est rien !» « J'ai buté contre une pierre ou contre une racine. On ne voit goutte sous ces arbres. » « C'est vrai, » murmura Jacques en passant son bras autour de la taille récalcitrante. « Laissez-moi vous conduire. J'ai des yeux de chat, moi. » Et il la força de ralentir le pas. Elle se tenait raide et droite, les yeux obstinément fixés sur le carré clair, s'ouvrant en lucarne au bout de la sombre avenue. Par moments, elle croyait sentir passer sur sa joue un souffle tiède, et elle se raidissait davantage, en proie à un effroi qui la glaçait jusqu'aux moelles. Depuis le jour où, au bruit de la mer moutonneuse, elle avait raconté à Jacques le long tourment de sa vie d'enfant, celui-ci n'avait plus eu avec elle de démonstration trop vive,
Mais très souvent, à partir de ce moment, elle avait éprouvé, à côté de lui, l'inexplicable crainte qui venait de la saisir. Parfois même, dans son cœur surpris, une brusque révolte éclatait, qui la dressait vis-à-vis de l'ami fidèle, de l'indispensable auxiliaire, du compagnon de vie qu'elle avait librement choisi, comme en face d'un ennemi. Pourtant, elle l'aimait. Elle l'aimait tendrement depuis des années. Oh oui, elle l'aimait. La silhouette blanche de la maison se profila enfin sur le fond sévère des grands arbres. Jacques cessa de retenir la jeune fille, et en la libérant, il dit, un peu froid, « Quelle hâte, Isabelle ! Est-il possible que cette fête de village, ce vacarme assourdissant et stupide, vous tente à ce point ?» Isabelle ralentit le pas. L'étrange angoisse qui lui étreignait le cœur sous l'ombre épaisse des grands arbres se dissipait de plus en plus à mesure qu'elle approchait de son chez-elle, comme si la vue du lourd bâtiment massif suffisait à la rassurer, à la protéger, à faire fuir bien loin une troupe de fantômes imaginaires. Elle dit, affectueuse, « Puisque cela vous contrarie, nous n'irons pas. Ce n'était qu'une fantaisie passagère qui m'est venue en écoutant cette musique affolée. Mais je n'y tiens pas autrement, je n'y pense déjà plus. » En effet, son désir, si vif tout à l'heure, d'aller voir de ses yeux la kermesse populaire, de se mêler à cette foule bruyante et joyeuse, avait pâli. Elle ne s'en souciait presque plus. Au-dessus de leur tête, le ciel ouvert avait reparu, tout brillant d'étoiles. Il y en avait partout, jusque tout au fond des régions invisibles, où elles haletaient comme prêtes à s'éteindre. Isabelle continua d'un ton rêveur. « Autrefois, je n'aimais que la solitude et le silence. Mais aujourd'hui, il me semble que je commence une nouvelle vie où tout est frais et neuf. » Elle laissa à Jacques le temps de répondre. Mais comme il ne disait rien, elle poursuivit au bout d'un instant. « N'est-ce pas étrange de penser que, tandis que nous nous rongions le cœur à son sujet, Lucien était tranquillement à Paris et qu'il aurait pu d'un mot nous rendre la paix. Je me demande souvent pourquoi il ne l'a pas fait. » Jacques continua de se taire, et dans ce silence voulu, Isabelle perçut l'éternel désir caché qu'elle ne réussissait jamais à satisfaire. Elle reprit attristée. « Je ne sais pas assez vous montrer tout ce que vous êtes pour moi, Jacques, quand je pense que, grâce à vous, l'angoissant réveil des choses passées est désormais impossible, que je n'éprouverai plus jamais, en embrassant papa, ce froid au cœur qui nous faisait tant souffrir tous les deux, que peu à peu le souvenir de ces tristes années s'effacera. Je sens que je ne pourrai jamais, jamais vous rendre ce que vous avez fait pour moi. »
« Ce que vous dites là, Isabelle, prouve simplement que vous ignorez ce que Philippe a été pour moi autrefois. Je lui dois tout. Ma carrière heureuse ici, je la lui dois. Qu'est-ce que j'ai fait pour lui et pour vous en retour? J'ai été jusqu'à Paris, voilà tout. N'importe qui, le premier indifférent venu, aurait pu vous rendre le même service. »
« Et pourtant, murmura Isabelle, c'est vous seul qui y avez pensé. Jamais je n'oublierai cela. » Jacques protesta sourdement. « Vous parlez sans cesse de gratitude, mais entre vous et moi, ce mot n'a pas de sens. Non, ni le mot ni la chose. Vous faites déjà partie de ma vie, et vous entendre constamment parler de gratitude, cela me glace, comme le témoignage banal d'une étrangère. Comment ne le comprenez-vous pas ? » Pendant quelques instants, le gravier cria sous leurs pieds sans que ni l'un ni l'autre reprît la parole. Ils contournèrent la maison, longèrent l'un derrière l'autre un étroit sentier faisant le tour du bâtiment, et arrivèrent à un banc où Isabelle s'assit résolument. Jacques prit place à côté d'elle. À travers les taillis, la demeure silencieuse se voyait de tout près, et cette proximité était comme une présence tangible qui les sauvait de la solitude. De temps en temps, une fusée montait au-dessus du toit, s'éparpillait en étincelles, puis, à bout d'élan, s'affaissait sans bruit.
Isabelle suivait distraitement la montée des gerbes enflammées et leur disparition, tandis que Jacques considérait le profil droit de sa fiancée. Il dit enfin d'un ton bas, « Pensez que vous êtes à moi, Isabelle. Quelquefois ce bonheur me semble si grand que je n'ose pas y croire, et l'inquiétude me donne des mouvements d'humeur que je n'ai pas toujours le temps de réprimer. Pardonnez-moi si je vous ai parlé trop vivement tout à l'heure. » Isabelle murmura, « Je n'ai rien à vous pardonner. C'est moi qui vous peine toujours sans le vouloir. » Elle ajouta aussitôt avec vivacité, comme si elle se décidait tout à coup, pour changer la direction de l'entretien, à donner à sa pensée sa forme et sa vie réelle. « C'est sur ce banc, à l'ombre de ce gros lilas, que nous étions assis le jour où Lucien est parti. Je le vois encore, comme si c'était hier, descendre en courant les degrés du perron et disparaître derrière les buissons. L'instant d'après, il était devant moi, pâle comme un mort. Oh, mon Dieu, pensez que tout cela est fini. » Jacques ne dit rien. Il avait redressé son buste puissant, carré, presque athlétique, et il luttait contre la fièvre qui troublait son amour profond pour Isabelle chaque fois que le souvenir de Lucien sortait de l'ombre. Il sentait le poison subtil et sournois s'insinuer lentement dans ses veines. Isabelle poursuivit. « Jusqu'à ce qu'il eût disparu, je n'ai pas quitté ce banc. Je suis restée clouée à cette place, comme je le lui avais promis. Mais plus tard, bien souvent, j'ai regretté de lui avoir obéi. En suppliant papa à ce moment-là, je l'aurais fléchi. Maintenant, tout cela est passé. » Tandis qu'elle parlait, une teinte rose était montée à ses joues, et Jacques retrouvait tout à coup l'impression poignante que là-bas, à l'abri des rocs abruptes, en face de la mer inquiète, il avait eu, en écoutant se dérouler le long récit d'Isabelle. « Aujourd'hui, Isabelle, murmura-t-il avec effort, c'est vers l'avenir que doivent aller vos pensées. Tout le reste est fini, n'est-ce pas ?» Elle dit oui de la tête, mais bientôt elle se corrigea. « Pourtant, il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Certaines circonstances les ont gravées trop profond dans notre mémoire. Elles sont entrées trop avant dans notre vie. On ne peut pas les arracher tout à fait. Ce jour-là, Lucien était assis à côté de moi, à la place où vous êtes. Il m'appelait sa petite sœur chérie. Et moi, je ne trouvais rien à lui dire, pas un mot. Le chagrin me paralysait. Pourquoi faire renaître sans cesse ces vaines réminiscences, Isabelle? Laissez-les fuir. Elles vous agitent inutilement. » En même temps, pour interroger de plus près le visage baissé, Jacques se pencha vers sa fiancée. Un souffle chaud effleura la joue d'Isabelle, et l'effroi qu'elle avait ressenti sous le mystère des ombrages touffus la ressaisit brusquement. D'un mouvement irréfléchi, plus prompte que l'éclair, elle se trouva debout, pâle et glacée. Ils marchèrent du côté de la maison, silencieux. Tout à coup, au contour brusque du sentier, la musique joyeuse de la fête, que le massif bâtiment interceptait, arriva de nouveau jusqu'à eux, accompagnée du boum-boum incessant de la grosse caisse. Et en même temps, ils aperçurent Philippe, qui se promenait sur le perron, semblant les attendre. L'horrible vertige, où pendant une seconde Isabelle avait frémi en face de son fiancé, s'envola comme par miracle. Elle dit humblement, « Il faut avoir patience avec moi, Jacques. Je ne réussis jamais à vous montrer tout ce que vous êtes pour moi, ni à vous dire clairement. » Elle s'interrompit, cherchant à expliquer d'une façon plausible ce va-et-vient de sentiments qui la jetait aux extrêmes les plus distants sans laisser le temps à sa raison d'intervenir. Mais n'y parvenant pas, elle posa sur le bras de Jacques la main où brillait le gros diamant de sa bague de fiançailles, et elle ajouta « Je ne suis encore qu'une enfant à côté de vous, une sotte petite fille qui ne sait pas se conduire. » Et comme ils avaient rejoint Philippe, elle prit le bras de son père.
Jacques ne tarda pas à prendre congé. Sous la masse de ses cheveux d'un blond châtain, son front intelligent était pâle et soucieux, et tout de suite Philippe avait remarqué l'altération de ses traits, mais il attribua la préoccupation de son ami aux arrangements définitifs qu'il venait, sans doute, de prendre avec Isabelle. Il le laissa s'en aller, acceptant sans protester le prétexte d'une dernière visite promise avant la nuit. Jacques s'éloigna. Ce soir-là, la société d'Isabelle, avec un tiers entre eux, lui était insupportable. Dès qu'il fut seul avec sa fille, Philippe prit entre ses mains la figure rougissante d'Isabelle, la regarda longuement, puis il demanda tout bas. « Eh bien, fillette !» Mais Isabelle, n'ayant pas l'air de comprendre son interrogation, il ne la pressa pas davantage. Tout ce que Jacques et elle auraient décidé, il le ratifiait d'avance. Ils se promenèrent un instant étroitement unis, heureux. Enfin Philippe murmura « Ma petite Isabelle, mon enfant, bientôt, autant qu'il est en mon pouvoir de l'effacer, le mal qui a été fait sera réparé. » Il respira longuement et ajouta plus bas. « Lucien arrive demain. Es-tu contente ?» Elle balbutia « Oui, oui, bien contente. » Philippe reprit. « Quand tu étais petite, tu croyais que ta mère s'occupait continuellement de toi, et cette conviction te rendait douce et docile. Comme elle serait heureuse aujourd'hui de voir l'avenir s'ouvrir souriant devant toi. À personne je ne t'aurais donné avec autant de confiance qu'à l'homme que tu aimes et qui t'aime. » Isabelle garda le silence, il continua. « Vous vous connaissez à fond. La vie commune ne trouvera entre vous aucun voile, qui, en se déchirant, montre soudain un monde ignoré. » Il reprit au bout d'un instant d'une voix altérée. « Comme tu ressembles à ta mère ce soir. » « Isabelle, il me semble que je la vois, telle qu'elle était quand je l'ai amenée ici. Cela me fait presque mal, mon enfant. Ah, qu'elle serait heureuse, elle aussi, de te donner à un homme tel que Jacques. Dis-le-moi pendant que nous sommes seuls, et qu'elle nous écoute comme quand tu étais toute petite. Tu l'aimes, n'est-ce pas ?» Isabelle balbutia. « Après tout ce qu'il a été pour moi, tout ce qu'il a fait pour nous, oh oui, je l'aime de tout mon cœur. » Et tout à coup, cachant sa tête entre ses mains, elle fondit en larmes. Sur la route, naguère pleine de monde et de bruit, Jacques s'en allait droit devant lui. Le silence régnait à présent le long du chemin plat et monotone, mais du côté du bourg illuminé, la clameur des instruments et les craquements du feu d'artifice continuaient. Sans s'en apercevoir, Jacques se dirigeait de ce côté. Ce ne fut que lorsqu'il eut atteint le proche voisinage de la fête qu'il distingua les éclats de gaieté des buveurs de bière, le rire strident des paysannes émoustillées et bavardes, le son aigre des friques, le grincement des violons et le bourdonnement confus de cette fourmilière en joie. C'était ce spectacle-là qu'Isabelle avait convoité lorsqu'ils étaient seuls dans la paix ombreuse du grand parc. Il s'éloigna rapidement, le cœur déchiré. Tout ce qui avait constitué jusque-là le bonheur tranquille de sa vie, son travail, l'utile emploi de ses heures, l'effort constant de ses énergies tendues vers le même but, tout cela lui inspirait à cette heure un dégoût et une fatigue insurmontables. Il réfléchit un moment qu'on l'attendait, en effet, ce soir-là, de l'autre côté de la ville. Mais si souvent on l'appelait auprès de la jeune fiche sans raison suffisante, simplement pour l'égayer, la remonter quand le mal inguérissable qui la minait la battait plus qu'à l'ordinaire, ce soir-là, il ne réussirait pas même à la faire sourire. À quoi bon aller l'attrister par son attitude préoccupée? Non, il n'irait pas. Il se remit à songer à son récent entretien avec Isabelle, l'esprit torturé. Au-dessus de sa tête, le ciel étalait sa riche moisson d'étoiles,
et le silence des champs déserts régnait de nouveau absolu. Il s'en allait à grands pas du côté de la ville, s'efforçant d'étouffer les rumeurs sourdes que l'attitude et les paroles d'Isabelle avaient fait naître au fond de sa conscience. Enfin, la masse sombre de la cité tailla sur le ciel sa noire silhouette, et au même instant, égrené dans la torpeur des rues, l'heure sonna, minuit. Il compta les 12 coups, un à un, jusqu'au dernier. Quelques minutes plus tard, il atteignait sa demeure. Malgré l'heure avancée, un filet lumineux passait encore sous le seuil de sa mère, mais au léger bruit qu'il fit en traversant le vestibule, la lumière disparut. Pourquoi sa mère l'avait-elle ainsi attendue? Une seconde fois, la sensation aiguë que sa peine secrète était partagée par le cœur maternel le transperça. Un autre œil que le sien, un œil anxieux et attentif, allait suivre une à une les péripéties du conflit douloureux qui s'approchait. Il entra dans sa chambre avec précaution, ferma la porte à double tour et alla s'accouder à la fenêtre. Tous les astres de la nuit étincelaient, fixant sur lui un regard impassible. Il les regardait, distrait, s'interrogeant tout bas. « Mon devoir d'honnête homme ! Pourquoi ? Qu'est-ce donc que le devoir d'un honnête homme en dehors des obligations fixes créées par les conventions sociales ? Où commence-t-il et où s'arrête-t-il ? Qui dira les limites insaisissables de ce qu'on désigne sous le nom imprécis d'honneur ? Était-il possible que ce fût son devoir d'honnête homme de renoncer à Isabelle ? Non, il l'emmènerait loin des lieux où le cerveau de la jeune fille, sans cesse occupé des mêmes pensées, avait contracté des plis dangereux. Il la soignerait comme on soigne une malade, jusqu'à ce que l'équilibre de ses sentiments fût rétabli. Mais quand, effacées par les premières pâleurs du matin, les étoiles commencèrent à s'éteindre, le trouble qui avait fait bouillonner toute la nuit son sang s'apaisa. Le chemin noir et désert ouvert devant lui se dessina plus nettement. Il fixa son œil sec sur le ciel blafard du grand matin et il dit les dents serrées « Mon devoir d'honnête homme !» Et fermant la fenêtre, il alla enfin se jeter sur son lit.